t'attaches à ton lit. Dur dans ton délire, tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Les couloirs trop blancs, vois ton médicament. Tu es dans quatre murs, des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois, la folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur, c'est ça la médecine. Me faire la guillotine. C'est ça la médecine. Me faire la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, non, sans maître, sans Dieu, ni maître donc, la voix de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment chaque mercredi matin. Bonjour. Alors encore aujourd'hui, on va faire une petite revue de presse sur et autour et critique de la psychiatrie. Avec, pour commencer, un article, alors oui, c'est Franc-Tireur, bon, qui consacre une double page centrale à un article, enfin un mini dossier, SOS psychiatrie, manque de moyens, personnel à bout, troubles mentaux en hausse. Enquête alarmante sur le parent pauvre de l'hôpital public, dit la première page. L'article est intitulé « La psychiatrie en dépression ». Voilà, on utilise ces bonnes vieilles métaphores médicales pour désigner quelque chose qui n'est pas un être humain. L'assassinat d'une infirmière au CHU de Reims par un déséquilibré qui avait déjà agressé 4 personnes en 2017 a tragiquement remis en lumière la déliquescence de la psychiatrie. Manque de moyens, formation déficiente, pénurie de soignants et de structures d'accueil, allongement du délai de prise en charge. Ces dysfonctionnements affectent le monde médical et mettent en danger les malades dont le nombre a augmenté depuis la pandémie. Voilà, donc Franc-Tireur numéro 81 du mercredi 31 mai 2023. Un article de Paloma Clément Picos. Il a fallu ce terrible fait divers pour que politiques et journalistes se penchent sur une situation qui, depuis près de 20 ans, ne cesse de se dégrader. L'état de la psychiatrie en France, de ses lieux de soins, de ses conditions d'accueil est catastrophique. Psychiatres, infirmiers, patients, familles ne savent plus quel superlatif utiliser pour parler de ce naufrage du entre guillemets parent pauvre de l'hôpital public. Ce problème est pourtant celui de tous et cette nécessité urgente ne concerne pas qu'une poignée de citoyens aliénés. Je ne fais pas de commentaires pour le moment, j'en ferai peut-être un peu plus tard. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie l'ont révélé en septembre 2021. Un Français sur 5 souffre de troubles psychiques. Alors là, cette phrase, hein, un Français sur 5... Là où je fais... Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse cette fois. Oui, un Français sur 5 souffre de troubles psychiques. C'est quelque chose qu'on voit écrit partout. Hein, notamment dans le rapport de la Contrôleur Général des lieux de privation de liberté. C'est aussi indiqué. Un Français sur 5 souffre de troubles psychiques et ça nous... Donc, bon, voilà, sur quelle mesure a été faite ce résultat par rapport à quel DSM, par exemple. Bon, bref, je continue. Soit 13 millions de personnes. Le taux de suicide en France est l'un des plus élevés des pays européens de développement comparable. Avec plus de 23 milliards d'euros par an, les dépenses remboursées au titre de la détresse psychique et des maladies psychiatriques sont le premier poste de dépenses de l'assurance maladie devant les cancers et les maladies cardiovasculaires, révèle le rapport présenté lors de ces assises. La dernière enquête de Santé publique France, publiée en février, montre que la situation s'aggrave chez les jeunes. 1 sur 5 présente des troubles dépressifs. Encore une fois, 1 sur 5. Une hausse de 80% par rapport à la dernière étude 4 ans plus tôt. Pourtant, comme partout ailleurs dans l'hôpital public, la tendance est à la fermeture de lits en psychiatrie. En une vingtaine d'années, 20% ont disparu. Mais le nombre de malades, lui, ne baisse pas. Il a longtemps eu la particularité de rester stable. Oui, mais je répète, sur quelle base il a été calculé. Voilà, je referme ma parenthèse. Puis la pandémie de Covid-19 est arrivée et a aggravé les choses. Peu attrayante et stigmatisée, la psychiatrie est l'un des derniers domaines choisis par les étudiants en médecine. Résultat, des unités doivent fermer par manque de personnel et de nombreux psychiatres partent à la retraite sans être remplacés. Les patients se retrouvent en rupture de soins. Un désastre alors qu'il se passe en moyenne 10 ans entre les premiers symptômes et le dépistage des troubles. 10 ans entre les premiers symptômes et le dépistage des troubles. Un diagnostic précoce est pourtant crucial pour espérer soigner les maladies mentales. Les généralistes en première ligne ne sont pas assez formés pour détecter les troubles. Quand c'est le cas, l'attente est de 6 mois pour une première rencontre avec un psychologue ou un psychiatre, voire 1 an ou plus dans certaines zones. C'est pire en pédopsychiatrie. Cette crise de l'attractivité est à mettre en lien avec la dégradation des conditions dans lesquelles travaillent les professionnels de la santé mentale. Moins de lits, moins de soignants, obligation de résultats. Jusqu'en 2022, contrairement aux autres spécialités de la médecine, la psychiatrie avait échappé aux tarifications à l'activité voulues par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Elle bénéficiait d'une dotation globale. Cette ère est révolue depuis l'instauration partielle de ce mode de financement qui consiste à rémunérer les établissements en fonction de l'activité médicale qu'ils réalisent à hauteur de 15%. Cela semble faible, mais ce n'est pas rien, et cela a suffi à orienter nos soins, regrette la psychiatre Delphine Glachan, présidente de l'Union syndicale de psychiatrie. Ce qui rapporte le plus, ce sont les prises en charge courtes. Quelqu'un qui est hospitalisé pendant 40 jours rapporte moins. Et comme la journée d'hospitalisation sera moins valorisée par l'assurance maladie, il y aura moins de personnel pour s'occuper du patient. Sauf que la psychose, la schizophrénie, les névroses graves doivent être prises en charge sur le long terme pendant 15 ans, 20 ans, voire pendant toute une vie, dit l'article. Oui, ce n'est pas nous qui disons ça. À l'époque, il a été préconisé d'envoyer les patients stables vers des généralistes, mais ce n'est pas la même chose qu'une prise en charge par un psychiatre. Au manque de moyens financiers s'ajoute le déficit de formation. En 1993, le diplôme d'infirmier du secteur de la psychiatrie a été supprimé pour se calquer sur les normes européennes de l'époque. Le diplôme est désormais polyvalent, non spécialisé, et les infirmiers se forment sur le terrain à la complexité de la psychiatrie. Sur le terrain. Aujourd'hui, les formations destinées aux professionnels sont souvent consacrées à la gestion de la violence. On apprend à s'occuper des conséquences de la folie, non de ses causes. De quoi dissuader encore un peu plus les jeunes recrues? Jamais on n'enverrait quelqu'un qui n'est pas prêt en service de réanimation, glisse une infirmière rencontrée en CHU. C'est comme si les malades mentaux n'avaient pas le droit à du personnel formé. Chez les soignants et les chercheurs que nous avons rencontrés, la comparaison avec la médecine somatique, relative au corps par opposition au psychique, revient comme un leitmotiv pour faire état de la situation. Julien Luc, psychiatre à l'unité sanitaire de la maison d'arrêt de Luynes à Aix-en-Provence, résume toute la problématique scientifique et financière. Ouvrons les guillemets. Une fracture, on sait ce que c'est, on sait combien ça coûte, on sait soigner. Une psychose, une schizophrénie, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas dire avec précision quel traitement va fonctionner ou quelle durée d'accompagnement psychologique sera nécessaire. Fin de citation. Alors, petit commentaire sur cette citation. C'est étonnant comment ça coïncide avec le fait que une fracture, ça se, on peut la définir, ça se définit bien, alors que pour expliquer la définition de la schizophrénie, eh bien, c'est encore très difficile. Je ferme la parenthèse et je poursuis la lecture de cet article enquête, de Franc-Tireur numéro 81. Des conditions de vie indignes. Faits inédits représentatifs de la gravité de la situation. En 2018, le personnel de l'hôpital psychiatrique du Rouvray, près de Rouen, s'est mis en grève de la faim pour obtenir des moyens en urgence. Quelques mois plus tard, au Havre, des soignants avaient investi le toit du CHU pour dénoncer les conditions de prise en charge des patients et réclamer des moyens supplémentaires. Fin 2022, manifestations et grèves des psychiatres hospitaliers et soignants ont eu lieu dans l'indifférence totale. Pourtant, quatre syndicats en étaient à l'initiative. Des familles de patients s'organisent pour que les techniques de contention ne soient plus autorisées. Par manque d'infirmiers et de formation, leur usage, comme celui de l'isolement, est devenu beaucoup plus courant. À tel point qu'Adeline Hazan, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté de l'époque, a rédigé un rapport alarmant en 2020 sur la question de l'enfermement en psychiatrie. Elle y indique que les conditions de vie de certains patients relèvent de l'indignité. C'est dans cette débâcle qu'a été créé le collectif Printemps de la psychiatrie. Delphine Glachan, membre du collectif, nous explique que sa raison d'être. Notre demande, c'est d'arriver à soigner dignement. La psychiatrie de secteur, c'est l'accueil inconditionnel, la relation, la parole, parler avec nos patients et faire des activités avec eux. Sauf qu'on a tellement de problèmes d'effectifs, des files d'attente tellement longues qu'on n'arrive plus à honorer ce principe crucial. Charlie Mongo, infirmier en psychiatrie au Centre hospitalier régional universitaire de Tours et membre du Printemps de la psychiatrie, fait le même constat. Les économies appliquées à l'hôpital public sont particulièrement délétères pour la psychiatrie, qui est le plus gros pôle de dépenses si on la considère en tant que spécialité médicale. C'est elle qui nécessite le plus de moyens humains, car on ne peut pas réduire la prise en charge psychiatrique par de la technique, de l'amélioration technologique, ni de l'ambulatoire. Fin de citation. Le biologique au détriment du social. La psychiatrie française souffre également d'un mal interne, dit l'article « La psychiatrie en dépression » du journal Franc-Tireur. Une différence d'approche qui remonte à plusieurs décennies. Une bataille orchestrée entre vieille et jeune garde, entre psychanalyse et neurosciences, entre public et privé, décrit Olivier Brisson, psychomotricien, dans « Pour une psychiatrie indisciplinée », édition La Fabrique. Il faut remonter aux années 1960 pour comprendre. À cette époque, la psychiatrie se répartit en plusieurs infrastructures. Un hôpital, un centre de consultation, un hôpital de jour auquel s'ajoute parfois un centre d'accueil familial thérapeutique, un centre d'accueil et de crise, et un centre d'activité. Et oui, il y avait tout ça à l'époque. Une équipe pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, dédiée, s'assure de la continuité entre les différentes structures afin que personne ne sorte de l'hôpital sans être suivi dans un centre de consultation. Olivier Brisson. Loue cette organisation des services de soins en psychiatrie désaliéniste, ouverte sur la cité et non plus enfermée dans ses murs, où les pratiques soignantes et les pratiques culturelles visent la réinscription de la personne en soins dans le collectif social. Depuis une vingtaine d'années, s'est développée une psychiatrie privée que l'hôpital public n'arrive plus à suivre. Résultat, nous avons une psychiatrie à deux vitesses, regrette Delphine Glachan. Le printemps de la psychiatrie s'oppose à une autre facilité promue à ses yeux par le gouvernement, le recours à des soins biologiques ou neuroscientifiques plutôt qu'une longue plutôt qu'une prise en charge plus personnelle et plus longue. Ce qui a pour effet, toujours selon cette praticienne, d'empêcher un suivi correct. Il y a une tendance très forte à ne plus considérer les patients au cas par cas. Cette autre approche de la psychiatrie, à travers scanners et imagerie, est notamment incarnée en France par la fondation Fonda Mental et sa présidente Marion Leboyer. Psychiatre et chercheuse, elle a fait de l'innovation en psychiatrie son combat pour prévenir les maladies graves et sortir de la crise. Ah oui, alors on pourrait la comparer à la situation écologique où on a la fuite en avant technologiste pour régler la question du climat. Mais là, on a un peu la même chose avec la fuite en avant technologiste pour régler le problème de la psychiatrie. Voilà, je ferme la parenthèse, je continue. Une vision qui ne fait pas l'unanimité auprès des soignants. En cause, cette fameuse approche jugée trop biologique, au détriment du relationnel. Certains regrettent une conception néolibérale compatible avec une volonté politique de rentabiliser les soins psychiatriques, notamment dans la durée. Fondamentale, elle, se présente comme une coopération scientifique alliant fonds privés et publics et finance de nombreuses recherches grâce au mécénat. Elle est notamment à l'origine de la création de centres experts où les malades peuvent se rendre pour réaliser des tests et se voir conseiller un traitement adapté à leur maladie. Marion Leboyer assure parvenir à soigner des personnes qui souffrent de dépression résistante grâce au progrès de l'imagerie cérébrale et à la stimulation transcrânienne là où les antidépresseurs avaient échoué. Des progrès qui la rendent optimiste. Demain, nous parviendrons à identifier des marqueurs biologiques pour diagnostiquer plus précisément ou suivre l'évolution de maladies mentales comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Elle précise toutefois qu'il n'existe pas de solution universelle. Comme le diabète, les maladies psychiatriques sont des maladies complexes. Il faut le bon médicament au bon moment, avec le moins d'effets secondaires possibles, la bonne psychothérapie et des règles d'hygiène et de vie, d'hygiène de vie adaptées. Voilà. Quand même, bon là, on atterrit un peu et on poursuit donc cette exploration de la biologie. Les méthodes développées dans ces lieux donnent envie de croire qu'une autre approche peut aider le domaine psychiatrique à sortir de sa dépression. Pourtant, peu de soignants rencontrés semblent convaincus. Cette recherche d'innovation a même poussé un psychiatre hospitalier qui préfère garder l'anonymat à démissionner. Donc, citation de ce psychiatre hospitalier qui a préféré démissionner. « Les attaques physiques, les insultes, les menaces, ça fait partie du métier. Je savais à quoi je m'engageais. Je pars car la quantité d'argent diminue. Mais aussi parce que je commence à voir fleurir des unités de soins spécialisés qui ne prennent plus en charge les patients ne rentrant pas dans leur case. » Il ajoute... Les projets actuels visent le développement des unités vitrines, des malades présentables avec lesquels on peut avoir du résultat. Fin de citation. Marion Leboyer n'est pas de cet avis. Elle nous l'assure, tout le monde peut venir dans un centre expert. Le démissionnaire, lui, se désole d'un constat accablant loin de celui de Fonda Mental. Il y a trois endroits où on termine sa vie quand on souffre de troubles psychiatriques graves. L'hôpital, la rue ou la prison. Des prisons pleines de malades. La prison cristallise une grande partie de la problématique de la psychiatrie en France. À la maison d'arrêt de Luynes, nous avons rencontré des équipes passionnées qui n'utilisent jamais le mot « détenu », préférant celui de « patient ». Le psychiatre Julien Luc explique... En prison, il y a entre 15 et 20% de malades mentaux, alors que dehors, c'est plutôt autour des 6%. Selon un rapport du Sénat datant de 2010, ce sont même 55% des entrants en prison qui souffrent d'au moins un trouble psychiatrique. Pour Sébastien Firpi, psychologue à la maison d'arrêt, il est urgent et nécessaire de prioriser des financements structurels en amont du soin psychique en milieu pénitentiaire. Notamment pour l'école, la justice, le travail social et la psychiatrie, afin de soutenir les institutions qui font de l'organisation du lien social dans la cité. des priorités essentielles pour guérir et prévenir à ses yeux. Si un tel choix politique s'engageait, il y aurait très probablement beaucoup moins de gens en prison. À défaut d'avoir accès à un parcours de soins, des citoyens se retrouvent donc dans un parcours carcéral, dans des prisons où les détenus sont en surnombre. Pascal Giravalli, psychiatre en unité hospitalière spécialement aménagée, qu'on appelle aussi UHSA, confirme. L'arrivée de malades psychiatriques en prison s'est accélérée ces 20 dernières années. D'après elle, l'hôpital n'assure plus sa mission d'accueil depuis la fin des années 1990 et les politiques sécuritaires du début des années 2000 ont accéléré le phénomène. Les personnes les plus précaires et les plus malades se sont retrouvées dans la rue. Avant, des gens qui troublaient l'ordre public et étaient ramassés par la police allaient à l'hôpital et où on prenait soin d'eux. Oui, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on assiste à la criminalisation des troubles mentaux. Fin de citation. Alors, dernière ligne droite de l'enquête donc de Franc-Tireur sur la psychiatrie. Les fous sont notre humanité. Quelle que soit leur approche de la psychiatrie, les soignants condamnent avant tout la stigmatisation. Schizophrènes, psychopathes et autistes sont devenus des insultes jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans un CHU de Marseille, un patient admet « Lors de crise, je ne suis parfois pas allé à l'hôpital par orgueil. » Les psys sont formels. Les malades mentaux sont d'abord dangereux pour eux-mêmes, mais ne plus les suivre au cas par cas ou mal aggrave ces pathologies et donc le risque d'un passage à l'acte. Alors là, évidemment, c'est un petit peu résumé, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on n'a pas... Bon, ce serait bien d'avoir un jour l'occasion de développer cette idée-là, la dangerosité des malades mentaux pour eux-mêmes et ne plus les suivre au cas par cas, qui aggraverait, selon ce patient, les pathologies, etc. Ça pourrait faire l'objet de débats. Je ferme la parenthèse et je poursuis la fin de cet article. La plupart du temps, il faut attendre la survenue d'événements dramatiques comme celui qui vient de frapper le CHU de Reims pour que la crise de la psychiatrie se rappelle au bon souvenir des politiques, sans que soient apportées des réponses suffisantes. À l'issue des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, le gouvernement a annoncé un plan de 1,9 milliard d'euros pour 5 ans, dont la création de 800 postes de soignants en centres spécialisés. Un chiffre qui peut paraître important, mais qui est en réalité dérisoire au regard des besoins. Un constat partagé. De la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence au bureau francilien de Fonda Mental, tous répètent qu'il faudrait arriver à se mettre autour d'une table et aborder la question structurelle de l'organisation de l'hôpital public et des dispositifs de soins. Delphine Glachan assure que le printemps de la psychiatrie défend une pluralité des approches. Plusieurs psychiatres et infirmiers suggèrent aussi le retour de l'asile comme lieu d'accueil dans son sens le plus noble. L'asile, le refuge, vous voyez. Pour ceux qui ne peuvent pas vivre en société sans se mettre, eux ou leurs proches, en danger. À Luynes, toujours, après un long échange sur la psychiatrie, la santé mentale et la quête effrénée du bonheur dictée par la société moderne, une soignante finit par glisser. On dit tout le temps qu'il faut aller bien, aller mieux. Aller mieux, ça veut dire quoi ? Le psy Julien Luc est convaincu qu'on juge une société à la façon dont elle traite la folie et la considère. Et donc il ajoute « On dit souvent que les malades psychiatriques ne servent à rien, c'est faux. Ces gens-là apportent quelque chose. » Là j'oserais dire « Oui, ils enrichissent les labos, mais ce n'est pas ça qu'il voulait dire. » On a cette image d'Épinal du savant fou, de l'artiste fou. Souvent, il faut une certaine folie pour voir différemment. Et quand ce regard va au-delà, quand il met en danger, il faut se donner les moyens d'y faire face, conclut l'article. Bon. Alors, bon, là, on voit se confronter plusieurs formes de de point de vue de soignants, hein, y a pas eu beaucoup. Là, déjà, les voix des patients dans ces, enfin des personnes psychiatrisées dans cet article ne se font pas du tout entendre, hein, par l'intermédiaire de certains certains ou certaines qui dénonce certaines maltraitances via le rapport de la contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais en ce qui concerne donc les patients, les psychiatrisés, leur voix n'est pas entendue. Et on voit se confronter donc deux principaux axes de principes. Pas la tendance de la psychiatrie actuelle qui veut donc prendre le terrain laissé par la psychiatrie publique complètement ravagée, sinistrée. Et ces deux tendances, ce sont évidemment d'un côté cette psychiatrie biologique avec ces scanners cérébraux et ces techniques de thérapie comportementale et cognitive et donc les neurosciences, etc. Et toujours les médicaments d'ailleurs. Et l'autre, c'est la psychiatrie héritée des aliénistes, qu'on appelle aussi psychothérapie institutionnelle parfois, et qui cherche plus du côté de la psychologie et disons pratiquant éventuellement parfois la psychanalyse. Donc toujours cette culture de la relation avec le entre guillemets patient. Donc c'est ces deux tendances qui se confrontent actuellement, qui peut être observé aussi à la lecture du livre cité ici d'Olivier Brisson pour une psychiatrie indisciplinée aux éditions La Fabrique, qui paraît actuellement dans les librairies et dont je vais vous faire la lecture après cette petite pause de musique avec System of a Down qui chante justement Science.
Things we all know, fighting off the disease program.
Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération Anarchiste. C'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, peut-être parfois, mercredi du mois. Et on est toujours à la critique de la psychiatrie, donc avec la lecture d'un extrait du chapitre 3, plus exactement, du livre d'Olivier Brisson, Pour une psychiatrie indisciplinée, paru aux éditions La Fabrique, et vendu actuellement dans les librairies. La santé mentale à l'ère du chiffre et de la mesure. Alors, avec une citation en exergue, voici sans doute revenu, ici comme ailleurs, le temps des chasseurs d'utopie qui mesurent tout l'intérêt d'une question à sa rentabilité dans une économie de l'efficacité lorsque ce n'est pas l'économie tout court. Alors, c'est une citation de Robert Castel, issue de La gestion des risques, les éditions de Minuit, 2011. Première édition, 1981. Durant la pandémie de Covid-19, personne n'a pu rester sourd aux appels des soignants criant le manque de moyens que les politiques budgétaires des décennies passées ont, par leurs choix successifs, généralisé. L'austérité sanitaire qui sous-entend les fermetures de lits, les coupes dans les budgets, les réductions de personnel, la tarification à l'activité, les innovations à effectifs et moyens constants, les réorientations de priorités, la flexibilité et autres évaluations, orientations, externalisations ont montré que l'on pouvait penser l'organisation des soins comme on gère une entreprise de la grande distribution, avec des méthodes managériales similaires et une ambition identique, celle de réfléchir à la pratique sur la base du chiffre et de la productivité. La médecine somatique n'a pu s'en protéger, la psychiatrie y est déjà bien engagée. Depuis des années, des professionnels alertent sur la situation avec force et détermination. De nombreux collectifs se battent pour défendre une psychiatrie qui ne perdrait pas sa dimension relationnelle. Il y a eu en décembre 2008 l'appel des appels, prononcé à l'initiative de Roland Gory et Stéphane Chédry, ainsi que la constitution du collectif des 39 en réponse au discours du président Sarkozy présentant ses projets sécuritaires pour la psychiatrie. Ces initiatives furent assez fortement soutenus dans le milieu professionnel, mais ne trouvèrent pas dans la société civile l'écho suffisant pour infléchir le cours des événements. Plus proche de nous, le printemps de la psychiatrie tente également d'associer médecins, soignants, usagers et proches pour alerter sur les conditions d'accueil indignes en psychiatrie, sans oublier toutes les luttes, les grèves, les occupations locales et coordonnées. Pourtant, rien n'y fait. La dynamique néolibérale est en marche, et même en marche forcée. Quelque chose de la colère exprimée n'est pas entendu. Les médias, dans leur immense majorité, préfèrent aborder la question de la santé mentale, soit par le prisme de la généralisation, avec un sujet sur les troubles anxieux, la dépression ou les troubles de l'humeur, en mettant en avant la prévalence grandissante du nombre de personnes concernées, ce qui fait de nous tous, des usagers en puissance. Soit par le prisme de l'indignation exagérée face à la découverte des conditions d'accompagnement, et ce avec le secours d'experts finement sélectionnés. Des experts qui, surfant sur le constat de la médiocrité de l'organisation actuelle des soins, files d'attente inconsidérées, contentions trop fréquentes, hausse des tentatives de suicide, stigmatisation des concernés, etc., viennent promouvoir une santé mentale du futur, c'est-à-dire exclusivement tournée vers l'innovation pharmacologique, l'évaluation et la recherche neurocomportementale. Le monde est ainsi fait qu'on mesure le poids d'une idéologie à la place qu'elle occupe dans les médias de grande écoute. Et aujourd'hui, sauf quelques contre-exemples courageux, les sujets sur la psychiatrie tendent désormais à être massivement présentés sous une approche dite scientifique, qui n'est autre qu'une approche objectiviste de la médecine mentale. Nous pourrions constater ce changement de paradigme avec une certaine nostalgie teintée d'incompréhension et nous découvrir un peu vieux jeu. Admettre qu'un système hégémonique est toujours voué à laisser sa place à un autre. Sourire même, pourquoi pas, en voyant les nouveaux maîtres jouir de voir sombrer l'empire précédent. Nous le pourrions si, derrière ces différents régimes de pensée, ne se jouaient pas des divergences philosophiques profondes aux conséquences politiques et sociales sévères. Le mouvement organiciste en santé mentale s'illustre et avance au nom de la recherche scientifique avec le support sans cesse plus grand des technologies contemporaines. Bien au-delà d'un conflit sur les origines ou les étiologies des pathologies, ou sur les modalités de construction d'un discours, par la recherche pour les uns, par l'observation clinique pour les autres, le danger qui semble aujourd'hui se profiler est la dissolution de la médecine psychiatrique dans une santé mentale de contrôle. Il n'y a pas de contradiction absolue entre toutes les sciences dures et les sciences humaines qui, toutes, depuis le début, nourrissent les élaborations en psychiatrie. On sait combien Sigmund Freud, lui-même neurologue, souhaitait faire reconnaître la démarche scientifique de la psychanalyse. L'objet d'étude du neurologue n'est pas le même que celui du psychiatre, mais le savoir de l'un peut aider l'autre à le mieux comprendre. Les recherches en psychiatrie, neurobiologie et pharmacologie ne sont donc pas en cause ici et sont même nécessaires. Les essais et découvertes dans le domaine des solutions médicamenteuses sont par exemple d'un apport certain si elles sont menées sans les biais de l'intérêt lucratif pour apaiser la condition psychique des personnes en soins. Le problème advient lorsque la science est brandie en étendard comme argument indiscutable opposé aux positions humanistes ou psychologisantes, toujours présentées comme arbitraires ou fantaisistes. On érige alors un certain modèle scientifique en critère unique et absolu, ce qui est tout de même assez contradictoire avec la démarche du savant qui ne cesse de poser des hypothèses et de les vérifier et de les remettre en question. C'est pourquoi les détracteurs de cette nouvelle psychiatrie objectiviste préfèrent parler d'une psychiatrie scientiste dont les retombées sont purement et simplement la protocolarisation de toute la démarche de soins. C'est une méthode qui ne jure que par la réplication, l'efficacité statistique, indépendamment des personnes qui la pratiquent et qui la reçoivent. Les données de santé mentale deviennent l'unique clé pour différents profils d'acteurs associés au parcours de soins, des assurances aux législateurs, des ingénieurs aux laboratoires. La psychiatrie entre, avec cette approche, dans l'ère du chiffre et de la mesure. Mais tentons de reprendre les mécanismes par lesquels cette nouvelle idéologie s'implante dans les esprits si facilement. Cela débute par la circulation des paroles d'experts. Les nouveaux profils qui sont invités à transmettre leur expertise et non nécessairement leur expérience sont un des leviers pour diffuser les nouvelles connaissances. Ces experts, certifiés par diverses agences plus ou moins officielles, font des audits, posent leurs diagnostics, identifient des problèmes de gestion et énoncent les moyens d'y remédier. Ces experts ou ces cabinets de conseil sont invités par et pour des entreprises, des managers, des chefs d'établissement et désormais aussi par l'hôpital. Rien n'est plus simple que de s'habiller du signifiant expert pour répandre la bonne parole jusque dans les médias. Quasiment partout, ce sont les héros de la psychiatrie, dite scientifique, qui viennent désormais faire la leçon. Télévision publique comme privée, radio publique comme privée, journaux papier ou numérique, cette nouvelle psychiatrie a tous les atouts pour séduire. Exit la souffrance, exit les affects. L'homme est une machine comme les autres, et si le cerveau humain fonctionne comme un ordinateur, il ne reste plus qu'à trouver le bon antivirus pour que la bête puisse se remettre au travail normalement. Ce sont ces experts incontournables qui incarnent pour le public élargi la critique du système psychiatrique actuel. Nous sommes face à une parole performative par excellence. Proclamer des pratiques innovantes et affirmer les progrès en cours suffisent à leur donner consistance et existence. Au-delà de la critique d'un système vieillissant et obsolète, la proposition d'une nouvelle ère où science et technologie permettraient socialisation, inclusion, réhabilitation et insertion ne peut que charmer. Il n'y a plus de conflictualité désormais, ou alors réduite à ses caricatures, que ce soit dans le champ de la santé mentale ou dans celui de l'éducation, de l'action sociale, de la justice et des services publics en général. Ce discours s'avance en écrasant la contradiction par l'invisibilisation des positions alternatives. Aux légitimes critiques des usagers sur l'hôpital, l'école ou le système judiciaire, qui ne sont pas à la hauteur de leurs tâches, inefficaces, mettent en œuvre des procédures trop lentes, etc., les technocrates proposent de réformer tous azimuts. Cette stratégie dans le champ psychiatrique prend assez cyniquement les allures d'une sorte d'antipsychiatrie 2.0, sans jamais dévoiler l'idéologie qui la sous-tend et qui est aux antipodes de celle des mouvements des années 1960. On comprend pourquoi, jusque dans des supports ancrés à gauche, on trouve des rédactions séduites par ce discours dénonçant l'institué et un attrait envers les tenants des approches rééducativo-réadaptatives qui plaident notamment pour le rétablissement du schizophrène grâce aux médicaments et aux méthodes cognitivo-comportementales ayant fait leur preuve, entre guillemets, ou pour l'inclusion de l'autiste grâce aux méthodes standardisées proposées par des marques propriétaires. L'idéologie néolibérale a réussi à polariser tous les débats entre nouveaux et existants, entre futur et passé, entre progrès et avantages acquis. La notion de progrès a tranquillement glissé au cours des 30 dernières années d'un progrès qui se mesurait à l'émancipation des femmes et des hommes à celui d'efficacité des systèmes. C'est avec Nicolas Sarkozy qu'ici, en France, on a parlé de droite décomplexée portant un discours qui s'assumait sans fausse pudeur. Et ce fut dans tous les domaines une période marquante, y compris dans celui qui anime ce livre. Une période qui libéra effectivement les langues et fit s'écrouler un certain nombre de digues que l'on croyait inébranlables. Mais cette désinhibition réactionnaire n'a pas été qu'abandon des complexes, elle a surtout entraîné la négation de la complexité. Cette manière de dire haut et fort les choses telles qu'elles sont, ce nouveau parler vrai, d'homme à homme, pour paraphraser la façon dont Emmanuel Macron évoque ses mises au point avec son ministre de l'Intérieur, cette pratique du discours qui irait droit au but et affronterait les problèmes, tout cela nous mène toujours à d'ineptes choix binaires, la France tu l'aimes ou tu la quittes, et le service public tu le défends tel qu'il est ou tu le défonces. La manière dont est instrumentalisé ce débat nous contraint à n'entendre que cette opposition impossible, défendre un statu quo insatisfaisant ou réformer pour instaurer une science médicale basée sur la preuve scientifique, entre guillemets. Or, ces questions sont infiniment plus complexes et cette façon de prendre aussi bien les usagers que les professionnels pour des abrutis ne perdure que parce qu'elle a une certaine efficace. Le débat est tellement caricatural qu'il n'a plus lieu. La réalité est que les acteurs partisans de la psychiatrie EBM, alors c'est avec la preuve scientifique ou quelque chose comme ça, les acteurs partisans de la psychiatrie EBM, c'est ce qui veut dire Evidence-Based Medicine, la médecine basée sur la preuve. Donc, les acteurs partisans de la psychiatrie EBM ont tapis rouge dans les médias, où la contradiction n'est portée que par un ou une journaliste n'ayant pas de connaissances concrètes sur l'accompagnement des personnes nécessitant des soins psychiques. Nul doute qu'il faille s'opposer catégoriquement à l'orientation néolibérale des soins en psychiatrie qui s'immiscent déjà par l'instauration excessivement envahissante de protocoles en tout genre, d'évaluations standardisées dont tout le monde sait qu'elles sont d'une pauvreté attristante, de contractualisation débilitante avec les patients ou encore de réduction toujours croissante de la valeur de l'échange humain. Encore faut-il clarifier nos positions quant à ce qu'il s'agit de défendre. Ce qui se dessine actuellement comme contestation du modèle scientiste est trop souvent résumé à une demande de moyens matériels et humains. Mais sont ceux-là les seuls et principaux besoins qui devraient permettre une réorientation éthique du soin en psychiatrie ? L'octroi d'un engagement financier de l'État suffirait-il à redonner du sens à nos pratiques ? Or, le manque de sens, la perte de sens au travail, est le constat qui revient systématiquement dans les manifestations, dans les écrits syndicaux, dans les discussions de services. Là, je vais peut-être lire la petite note concernant la perte de sens au travail. C'est juste en référence à un article du Quotidien du médecin, un sentiment de perte de sens du travail en psychiatrie publique. Un article, donc. Encore faudrait-il définir ce sens qui manque, parce que le manque ne dit rien de son objet si ce n'est son absence. Gonfler les rangs ou les bourses sans remettre en question les mécanismes qui animent nos professions et les attendus politiques et sociaux du rôle joué par les institutions accompagnant les personnes traversées par des effondrements ou des ébranlements plus ou moins sévères, ne serait en soi qu'un leurre. Il suffit de rappeler la façon dont le Ségur de la Santé a tenté, dans l'après-confinement de 2020, de faire taire la grogne des soignants en offrant une augmentation, somme toute importante, à tous les professionnels de la filière paramédicale. On a revalorisé les salaires, pas la fonction. Il est de notre responsabilité de maintenir une critique radicale du devenir entreprise de l'hôpital et de l'installation d'une santé mentale biologisante. D'une santé mentale biologisante gouvernée sur le mode libéral de la sécurité où les données supplantent tout autre objet de discours. Mais il l'est tout autant de dénoncer la façon dont la psychiatrie, se disant de secteur, a largement ménagé l'introduction de ce nouveau régime de soins en tournant le dos aux pratiques les plus audacieuses de son histoire, qui avait tenté d'affaiblir son essence disciplinaire. Une critique sur ces deux fronts est, nous semble-t-il, un préliminaire nécessaire pour engager la réflexion et la construction d'espaces et de modalités d'accueil thérapeutique égalitaire à la hauteur des enjeux du moment. Voilà, c'était le chapitre 3, intitulé « La santé mentale à l'ère du chiffre et de la mesure » du livre Pour une psychiatrie indisciplinée, d'Olivier Brisson. Olivier Brisson, est-ce qu'on a une petite biographie? Mais je n'ai pas pensé à me mettre à la recherche de bon, en tout cas c'est un il penche pour une psychiatrie donc désaliéniste. Sans doute est-il soignant à un moment il est psychomotricien, voilà, et exerce en psychiatrie publique depuis près de 20 ans. Musicien engagé dans les pratiques brutes de la musique, il est aussi fondateur en centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, CMEA, du Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, très lié, le CMEA d'ailleurs aussi, à la psychothérapie institutionnelle. Bien, eh bien, nous allons écouter quelque chose, un truc qui va s'appeler... un truc qui va s'appeler pauvre type au pluriel. Et c'est de Fantasio.
C'est pas possible si on. C'est pas parce que les cartoons ils font n'importe quoi, c'est pas parce qu'on est soviète, on porte des fourrures en plein été comme ça.
Nous ne sommes pas soviètes.
C'est pas parce qu'on est russe, on porte des fourrures en plein été, c'est n'importe quoi les dessins animés.
Ah oui, c'est un dessin animé.
C'est ça.
Ils sont un des meilleurs du monde.
Ben, ils savent pas que comment ça se fait en plein été porter des vêtements d'été, d'hiver. Ouais, dans le dessin animé, ils font n'importe quoi. Ils vont crever de chaud.
C'est pareil comme avec ton comics, ils font aussi n'importe quoi, tes personnages.
Non, non, mais ça c'est la réalité, ça c'est le contraire.
Non, mais c'est pareil avec des animations RIS, c'est aussi
c'est ça.
Pas réalité, hein. C'est une fiction.
Ouais.
Oui ou pas?
Ouais, c'est logique, ils peuvent crever de chaud de porter des vêtements d'hiver, hein, en plein été. Ils font n'importe quoi, les créateurs de dessins animés.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, c'est toujours l'entonnoir, et pour les dernières 10 minutes ou presque, une annonce d'un événement, un week-end, ça se passe pas à Paris, hein, ça se passe en Bretagne, en Côte d'Armor. Week-end autour du soin et de la santé, le 16, 17 et 18 juin 2023, à la salle des fêtes de Plougon-Vert. Atelier, discussion, projection, écoute radio, stand d'info, coin chill, bouffe et boisson, concert. Alors, on peut poser des questions sur plus d'infos, sur LACASS, LACA2S, at riseup.net. C'est la CASS Fest. Alors, ça se passe à la salle des fêtes de Plougon-Vert, avec un grand parking, gare la plus proche, Plougon-Vert ou Guingamp, mais c'est loin à pied. Pas de transport, bus ou autre. Spécificité du lieu, espace de plein pied prévu pour les PMR, personnes à mobilité réduite, porte-manteau, table, chaise, écran de projection, tatamis et canapés dans l'espace détente, accès au jardin facile, trottoirs et parkings accessibles et en pente douce, ce qui n'est pas le cas dans tout le village où les trottoirs sont très petits, cela dit, il y a peu de circulation. 4 espaces séparés pour les ateliers et tables d'infos, pas de camping. Et tout le week-end, un espace de repos, des infos kiosques sur la santé mentale et physique, table d'infos sur la pédocriminalité, parler du glauque pour mieux le détruire, livres et brochures du pôle enfance du planning familial 29, groupe qui lutte contre les violences faites aux enfants, livres et brochures divers à consulter sur place, des stands de prévention et réduction des risques, des espaces jeux de société ainsi que des jeux d'extérieur, boules bretonnes, palais, etc. Activités, jeux et personnes référentes enfants disponibles sur certains horaires, restauration sur place, bar à soft tout le temps, bar avec alcool en soirée uniquement. Prix libre, le prix libre consiste à payer selon tes moyens et ce que tu as envie de donner pour soutenir l'événement, les intervenants, les artistes, etc. Donc ça se passera le 16, 17 et 18 juin 2023. Alors qu'est-ce qui va exactement se passer? Pourquoi est organisé cet événement ce mois de juin? Alors, voilà, ça parle de validisme. Ah, donc là, c'est le 18, dimanche 18. Nombre de participants, 20 personnes. Atelier, un atelier sur le validisme, mixte, et sur certains temps en mixité choisie. Discussion en petit groupe, personnes handicapées, personnes minorées de genre. 2 heures dans cet atelier. Vous découvrirez la notion de validisme, c'est-à-dire la discrimination vécue par les personnes handicapées ou ayant des contraintes de santé. Le but sera de comprendre ce que c'est et de comprendre à réfléchir l'impact que ça peut avoir sur nos proches ou sur nous lorsqu'on est concerné. On tentera également de trouver des pistes de ce que on peut faire pour que ce soit moins lourd au quotidien. Les temps seront en petits et grands groupes, beaucoup en autonomie, vous pourrez y parcourir des ressources, lecture audio, vidéo, discuter de vos vécus, réflexions sur le sujet, trouver des outils pour agir concrètement. Tout le monde peut venir. Des temps en différentes mixités choisies seront proposés, personnes handicapées, personnes minorées de genre. Le cadre posé se voudra, dans la mesure du possible, respectueux des besoins spécifiques pour que chacun et chacune se sente à l'aise. Ça, par exemple, c'est un exemple d'atelier qui a lieu à la CASS Fest 2023, le dimanche 18. Alors, le samedi 17, il y aura aussi d'autres ateliers, comme sur la mémoire post-traumatique, et présentation, échange sur le trauma et comment traverser ces moments où il ressurgit dans le présent. Donc c'est le samedi 17, de 14h à 16h, nombre de participants, max 20 personnes, durée 3 heures. À partir de mon expérience, de mes connaissances et recherches, je propose de faire une présentation sur le traumatisme, PTSD, PTSD complexe, etc. pour comprendre un peu mieux de quoi on parle, comment ça fonctionne dans notre système nerveux, comment ça s'exprime avant d'échanger sur différents outils que chacun et chacune a déjà expérimenté. Il y a aussi l'expérimentation du cercle magique, cercle de parole du programme québécois PRODAS, Programme de développement affectif et social. Le pôle enfance du planning familial 29 vous propose d'expérimenter un petit bout d'un programme dédié à la prévention en matière de santé mentale, le PRODAS, plutôt pratiqué d'habitude en école auprès des enfants et des ados. Il s'agit d'un ensemble d'outils dont l'outil central du cercle magique, cercle de parole très codifié, permet d'avoir un espace pour parler de soi, de ses ressentis, de son vécu, pour écouter les ressentis des autres personnes en présence, pour développer sa conscience de soi, son empathie, sa compréhension de l'influence des autres sur soi et de soi sur les autres, pour apprendre à se comparer à soi-même plutôt qu'aux autres. En 1h-1h30, l'idée sera de vous présenter les codes de ce cercle magique et de le pratiquer ensemble, bien sûr, ne parleront que ceux et celles qui le souhaitent. L'atelier est basé sur la parole et sur l'écoute. Il s'adresse à tous et toutes avec cette limite qu'il est très difficile d'accès pour les non-entendants et entendantes. Ça peut être impressionnant pour les enfants de mixer adultes et enfants dans cet atelier, mais c'est quand même possible. Il y aura un temps enfant et un temps adulte distinct. Une exposition. De peau, de chair et d'os, qui suis-je, de quoi suis-je constitué, qu'est-ce qu'être, au travers de différentes propositions artistiques, j'essaie d'élaborer une réflexion introspective sur la notion d'identité, dit l'artiste, du mouvement et du cheminement qu'elle implique, du dépassement des oppositions intériorisées à une compréhension plus subtile et complexe de ce qu'est pour moi la nature humaine. Dans une visée thérapeutique, j'offre ici un récit, un regard personnel, influencé par mon vécu et mon fonctionnement psychique singulier, trop souvent décrit comme pathologique, afin d'esquisser ce qui, à mon sens, fait commun entre nous, notre si belle et si précieuse vulnérabilité. Voilà, puis il y a encore d'autres choses. Un atelier accès aux soins, un atelier de préparation collective à l'arrêt du tabac, un atelier sur les addictions, un esprit critique et pseudo-médecine, etc., etc. Alors, et aussi sur la solitude, c'est un atelier le dimanche 18 de 14h à 17h, sur la solitude. Voilà, tout ça se passe donc à l'atelier Casse-Veste 2023. Les 16, 17 et 18 juin 2023, à la salle des fêtes de Plougonvert, 22 818, le code postal. Plus d'infos sur lacasse@riseup.net. Lacasse, L-A-C-A-2-S. Ainsi se termine l'entonnoir pour cette semaine. Au revoir. Et nous enchaînons un rayon de soleil. Alors, en attendant, encore un peu de musique. Now you're up.
national.